Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardeau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Daniel, alors vous aussi vous donnez dans les anglicismes, car vous allez nous parler du Global Gateway. Début décembre 2021, la présidente de la Commission européenne, notre amie Ursula, a présenté une stratégie intitulée Global Gateway, qui, dans le contexte de crise sanitaire, est un peu passé inaperçu. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, de quoi s'agit-il ?
Vous savez, Jean-François, que j'adore votre anglais, hein, votre accent, hein, le global me convient bien, mais moi je voudrais traduire ça, et pourquoi pas appeler ça le portail mondial. Le portail
mondial. Eh bien voilà, mondial. Très bien, le portail mondial.
Mais on pourra dire aussi GG, hein, Global Gateway, si vous voulez, hein, au choix. Alors, c'est un projet qui a fait l'objet d'une communication de la Commission transmise au Parlement européen, au Conseil, donc aux législateurs, au Comité économique et social européen, au Comité des régions, donc à des organes consultatifs pour avis, et à la Banque européenne d'investissement. C'est vous dire qu'il a une certaine importance. Ce projet est consultable sur le site ecEuropa.eu. Alors, portail mondial, Global Gateway, est un plan de l'Union européenne pour orienter et réaliser des investissements majeurs visant à développer des infrastructures dans le monde entier. Ce plan repose sur le constat qu'il existe, au niveau mondial, un déficit massif d'investissement dans les infrastructures, les très grands équipements, on va dire, pourtant indispensables au développement durable, à la lutte contre le changement climatique, pour la protection de l'environnement, pour l'amélioration de la sécurité sanitaire mondiale et pour le renforcement de façon générale de la compétitivité de l'économie mondiale. Avec ce plan, l'Union s'engage à faciliter la construction d'infrastructures physiques telles que les câbles en fibre optique, les corridors de transport propres, les lignes de transport d'énergie propres et à assurer un environnement propice à la réalisation des projets en termes financiers, commerciaux et réglementaires. À vrai dire, cette stratégie n'est pas nouvelle. Dès les années 90, le programme UE Gateway a permis des réalisations d'interactions et de coopération avec l'Asie, par exemple, avec le Japon, l'Inde, les pays de l'Asie du Sud-Est, et jusqu'à une stratégie de connectivité UE-Asie en 2018. Mais avec portail mondial, Global Gateway, l'ambition est d'une autre ampleur. D'une part, la stratégie est pleinement conforme aux objectifs de développement durable, les fameux ODD du programme 2030 des Nations Unies et évidemment à l'accord de Paris. D'autre part, tout en s'appuyant sur le plan économique et financier lancé pour les Balkans occidentaux, les pays du partenariat oriental et ceux du voisinage méridional, cette stratégie est mondiale, avec cependant une attention particulière à l'Afrique, à l'Asie centrale et à l'Amérique latine.
Alors, c'est ambition de la connectivité mondiale par la création d'infrastructures, tout ça nous rappelle quelque chose. Ça me fait penser un peu au projet chinois dont on ne sait pas trop ce qu'il faut penser et qu'ils ont intitulé joliment les routes de la soie.
Eh bien, je crois que vous avez raison, Jean-François. Et même si l'argumentaire très, on va dire, politiquement correct de la Commission s'en tient au respect des engagements onusiens, il ne fait pas de doute pour de nombreux observateurs que Global Gateway, portail mondial, est une tentative de contrer l'influence chinoise portée par les routes de la soie dont vous avez parlé. Madame von der Leyen reconnaît implicitement cette concurrence lorsqu'elle déclare « La stratégie Global Gateway est un modèle, modèle sur la façon dont l'Europe peut établir des connexions plus résilientes avec le monde. » Elle aurait presque pu dire un autre modèle. Il s'agit d'orienter les dépenses de l'UE en faveur du développement des infrastructures au niveau mondial dans le respect de principes fondamentaux suivants. Ils sont au nombre de 6 et je vais vous les infliger parce qu'ils sont essentiels.
Alors écoutez bien. Non, pas vous, les auditeurs.
J'adore. Premier principe, les valeurs démocratiques et normes élevées. Ça veut dire respect de l'état de droit, respect des normes élevées en matière de droits de l'homme, de droits sociaux et de droits des travailleurs, et respect des normes allant des règles internationales à la propriété intellectuelle et au marché public ouvert. Rien que ça. Deuxième principe, bonne gouvernance et transparence. Ça signifie accès sans entrave au marché public, conditions de concurrence équitables pour les investisseurs potentiels, résultats à atteindre clairement définis, obligation de rendre des comptes et viabilité financière, mais aussi garantie d'un accès abordable et égal aux services et aux avantages créés, notamment pour les femmes et les filles et les personnes risquant d'être désavantagées ou exclues. Troisième principe, des partenariats égaux. Projet conçu en étroite coopération et concertation avec les pays partenaires et fondé sur les besoins et les possibilités recensées par ces pays, ainsi que sur la prise en compte des intérêts stratégiques de l'UE. Quatrième principe, il touche au vert et au propre. Stratégie neutre pour le climat, visant à favoriser un développement et une reprise durable plus rapide, à générer une croissance inclusive et des emplois, et à permettre la transition vers une économie mondiale plus propre et plus circulaire. La stratégie investira dans le développement d'infrastructures propres, résilientes face au changement climatique et alignées sur les trajectoires vers la neutralité carbone. Le cinquième principe, il touche à la sécurité, axé sur la sécurité des infrastructures sûres comme fondement de la résilience de l'économie mondiale et des chaînes d'approvisionnement qui permettent de fournir une connectivité fiable et de renforcer les capacités face aux perturbations naturelles ou d'origine humaine, aux menaces physiques, informatiques ou hybrides, ainsi qu'à la coercition économique à des fins géopolitiques. Et enfin, dernier principe, le principe de catalyser les investissements du secteur privé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par une mobilisation des ressources publiques, on va chercher à attirer des capitaux privés afin de constituer pour les pays partenaires une option viable et attrayante.
Alors, puisqu'on parle de gros sous et d'argent, comment cette stratégie du Global Gateway sera-t-elle financée?
Alors, les projets de la stratégie Global Gateway seront élaborés et mis en œuvre dans le cadre de ce qu'on appelle une dynamique Équipe Europe, une approche Équipe Europe. L'objectif est de mobiliser jusqu'en 2027 300 milliards d'euros d'investissement qui proviendront de plusieurs sources, de deux sources principalement. Source publique, l'UE, qui prendra sur son propre budget pour 18 milliards d'euros, les États membres et leurs institutions nationales de développement, les institutions financières européennes, alors la Banque européenne d'investissement, la BEI, et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BIRD. Et puis des sources privées, les entreprises européennes, pour lesquelles l'UE étudie la possibilité de mettre en place un système européen de crédit à l'exportation complémentaire des dispositions nationales existantes, afin de garantir des conditions de concurrence équitables avec les entreprises de pays tiers. Alors, comme l'a déclaré Mme von der Leyen, cette stratégie, j'ouvre les guillemets, vise à établir des liens et non à créer des dépendances. Ça fait un modèle, Jean-François, ça fait peut-être même un contre-modèle, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Global Gateway, pour l'Union européenne, à l'évidence, relève d'un enjeu géopolitique majeur qui touche un peu à la souveraineté européenne.